3 à 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors voilà, aujourd'hui on va commencer à présenter la bibliothèque de consultation et d'études à la Maison de la Mémoire. La Maison de la Mémoire, ce sont les archives papier, mais c'est aussi toute une collection d'ouvrages qui s'enrichit régulièrement de dons de particuliers notamment, qui viennent compléter au fur et à mesure les rayonnages de la salle de lecture de la Maison de la Mémoire. Et donc parmi les plus de 2000 ouvrages qui ont été légués par la famille d'Yves Couder en 2010, j'ai envie de faire un petit arrêt sur la découverte d'un écrivain local à la plume avertie qui, à mon goût, vaut vraiment le détour. Et donc, je vais vous parler de Georges Bayle, qui est né à Béziers en 1918, mais qui est très vite devenu un Aveyronnais d'adoption, qui vivait à Roquefort. Donc, il a travaillé depuis le certificat d'études, comme manœuvre, chauffeur de poids lourd, travailleur manuel, et rien ne le prédisposait donc à l'écriture. Mais on peut quand même penser que ces divers métiers, et notamment celui de chauffeur routier, l'ont vraiment fortement inspiré sur les sujets de ses ouvrages, où vie quotidienne et description des paysages tiennent une grande place. Alors, on peut noter qu'en 1954, il a écrit un polar, édité dans la série noire de la NRF chez Gallimard, « Du raisin dans le gasoil ». Pourquoi du raisin ? Alors, on peut noter que raisin ou raisiné en argot, c'est du sang. Et je vais me faire le petit plaisir en vous citant une partie d'un article qui est paru dans la revue du Rouergue en été 89, qui dit « La cadence du récit, la véracité des dialogues, la précision des descriptions ne pouvaient qu'avoir été finement observées ou vécues. Georges Bayle s'est d'autre part ménagé l'intérêt de lecteur en ne ménageant pas les attentes, les surprises, les rebondissements. Un bon résumé, même s'il est incomplet du style de Georges Bayle, que beaucoup pourraient lui envier. » Et en 1957, s'il fallait compléter le très bon polar de l'auteur, cet écrit fera l'objet d'un film noir, Gasoil, avec des acteurs qui ont fait leurs preuves. Je prends pour exemple Gabin, Moreau, Roger Hanin, Jean Lefebvre et d'autres, et sur des dialogues d'Audiard. Et ce film, on revient donc chez nous, puisqu'il a été tourné en grande partie dans les gorges du Tarn et sur l'Écosse. En 1955, toujours chez la prestigieuse collection NRF de Gallimard, un recueil de nouvelles, Le pompiste et le chauffeur. Donc c'est un recueil de nouvelles avec une unité profonde. L'auteur se plaît à raconter la vie des travailleurs manuels, une vie qui comporte des vicissitudes, une abnégation dont on parle peu parce qu'elle est courante. Cette classe sans ambition est capable de penser, de raisonner et de souffrir, tout aussi bien que les plus raffinés des intellectuels. L'auteur nous ramène aussi au berceau de son enfance avec des récits sur les aficionados, des corridas, tout ceci dans un réalisme rare. La première nouvelle a également donné lieu donc au tournage d'un film, Le Faux aux Poudres, toujours basé sur le cos du Larzac, les caves de Roquefort et la couverte arade, lieu cher à l'auteur et que l'on devine déjà à la lecture du récit. Et donc dans ce recueil de nouvelles, je vais les citer, il y a Le pompiste et le chauffeur, Corrida, Invocation à Sainte-Aphrodise, Souvenir de route et Un homme obsédé. Voilà, donc deux nouvelles sur les corridas notamment, et puis beaucoup sur, on revient sur la vie des chauffeurs, la vie de ces routiers qui parcourent les routes, avec des fois des malheurs, mais aussi quelques plaisirs au quotidien, et tout ça dans un style toujours très agréable. Voilà, je ne vais pas résister au plaisir de vous donner envie de découvrir Bayle par un court extrait de la nouvelle « Souvenir de route ». En ce temps-là, nous faisions la tournée de Requista deux fois par semaine. Cela représentait deux courses de 200 km, avec 8 points de chargement répartis dans la campagne, sur les montagnes et dans les vallées. Les tournées commençaient dès le premier jour de janvier et se terminaient le 15 juillet. Deux fois par semaine, à 5h du matin, j'arrivais à Saint-Rome-de-Sernone avec le camion. Je manœuvrais sur la place, je plaçais le camion prêt au départ et j'allais chercher le vieux Bosque. Le vieux Bosque m'accueillait avec gentillesse, il m'offrait une tasse de café, un petit coup de marque, et nous partions. Les jolis mois pour rouler étaient ceux d'avril, de mai et la première moitié de juin. Alors, dans le petit matin, nous traversions des paysages verdoyants, paisibles et optimistes. Dans la côte du Truel, des couvées de jeunes perdreaux traversaient bravement la route devant le camion. Le vieux Bosque les regardait d'un œil attendri. Tévé, qu'ils sont jolis. Vers le haut de la côte, des lièvres détalaient à l'improviste en entendant le bruit du moteur. Les routes que nous fréquentions étaient inconnues des touristes, on n'y rencontrait pas grand monde, sauf toujours les mêmes camions qui travaillaient comme nous et l'autocar de Rodez. Dans la côte du Truel, l'autocar est notre grand sujet de préoccupation, car sur cette route étroite et sinueuse, serpentante à flanc de ravin, les rencontres entre deux poids lourds étaient toujours délicates. À la sortie d'un virage, l'autobus surgissait tout d'un coup. Je rabattais sec sur la droite en donnant un bon coup de frein, et le chauffeur du car en faisait autant. En général, le vieux Bosque descendait de la cabine, jetait un coup d'œil exercé sur nos positions et dirigeait les manœuvres. « Reculez, avancez, venez, venez toujours, serrez-vous un peu. Hep, pas davantage, vous êtes au bord de la gandole. Continuez de venir, ça passe, ça passe. » L'autocar s'ébranlait à son tour, les voyageurs, pas très rassurés, approchaient leur visage des vitres et surveillaient la masse du 5 tonnes qui défilait à quelques centimètres de leur nez. Enfin, le vieux Bosque remontait et nous continuions notre route. Il me disait « La prochaine fois, si on le voit venir, on s'arrêtera un peu avant le virage de la carrière. J'ai remarqué un endroit où la route est plus large, on se doublera mieux. » Mais cet autobus, on ne le voit jamais venir. D'abord, le vieux Box sortait de son panier quelques charcuteries inédites qu'il m'offrait en partage, du galabar ou du saucisson de couane, et comme je les trouvais bonnes, il m'expliquait la façon de confectionner ces choses. Il connaissait toutes les façons possibles et inimaginables d'utiliser la viande de cochon, il en parlait si bien que finalement, l'eau vous en venait à la bouche. Au déjeuner du matin, on attaquait le litre de vin du vieux Bosque et on le séchait comme des braves, nous réservions mon litre pour le midi. Voilà, c'est un exemple de cette nouvelle-là qui après nous amène un petit peu dans tous les coins jusqu'à Requista, plusieurs points d'arrêt où il rencontre des personnages attachants du vécu, du vrai. Et ensuite, on a aussi donc un troisième roman qui a été édité en 1958, toujours dans cette fameuse édition Gallimard, et qui s'appelle donc Les Déserteurs. On s'éloigne là des sujets de ses premiers ouvrages et l'on se retrouve en 1944, toujours sur le causse du Larzac, dans une ferme isolée où vont se côtoyer par la force des choses déserteurs allemands et paysans. Je vais citer à nouveau un livre sur la fraternité des hommes. Dans l'esprit de George Bayle, un déserteur, traqué par tout ce qui porte un uniforme, devient une charge sacrée pour tout homme de bonne volonté. Encore une fois, les dons de compteur de l'auteur ne sont plus à prouver. Et en feuilletant également les revues que nous avons à la Maison de la Mémoire, j'ai retrouvé un texte qu'a écrit Georges Bayle et qui a été publié donc dans la revue du Rouergue en 87, qui s'appelle Cracovie 42. Je sais pour l'avoir entendu dire que Georges Bayle a été déporté à Ravaruska, en Ukraine, dans un camp de représailles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce texte relate un morceau de vie, je pense. Et c'est un texte assez court, mais très très prenant, d'une réalité troublante, sur une période noire, dans un lieu dont on ne parle pas toujours, mais qui ne peut en aucun cas laisser le lecteur indifférent. Voilà, et si on se penche un petit peu plus sur la vie de Georges Bayle, on peut noter qu'il a été un des membres de la bande des copains d'abord, et qu'il était un grand ami de Georges Brassens. Rien que pour ça, à mon avis, c'était un homme à connaître. Voilà, donc je vais faire rapidement pour moi une description de son écriture, ça n'engage que moi. Moi, je trouve que c'est une écriture à la fois simple, limpide et très riche. J'ai découvert Georges Bayle, j'ai commencé à lire et n'ai eu de cesse que de tout découvrir de son œuvre. Certes brève, mais intense. Le lecteur étranger, dans le bon sens du terme, visualise réellement des paysages, même s'il ne les a jamais vus, et peut vivre l'aventure. Et le lecteur du Sud reconnaîtra avec plaisir des lieux qu'il a lui-même parcourus, et des scènes semblables à ce qu'on lui a déjà pu lui conter. Voilà, un petit exemple des perles que l'on peut trouver sur les rayonnages de la Maison de la Mémoire. S'y côtoient livres d'histoire, de géographie, d'archéologie, des romans en français, en occitan, des publications locales ou régionales, souvent anciens, parfois méconnus. Mais n'en disons pas plus, certains pourront peut-être être présentés ultérieurement. Donc un choix très éclectique que peuvent venir découvrir les lecteurs intéressés ou curieux aux heures d'ouverture du service.
Merci Sophie. Et j'ai quand même une question, est-ce qu'on peut les emprunter comme à la bibliothèque, ces livres, ou il faut rester sur place pour les lire?
Voilà, donc la Maison de la Mémoire n'est pas une bibliothèque de lecture publique, on est un service donc de consultation. Par contre, la salle est très agréable et on est prêt à accueillir tout lecteur qui a envie de venir découvrir les ouvrages et d'y passer une, deux, trois, quatre heures sans aucun problème, mais les ouvrages restent sur place. Donc si on reste sur sa faim, il faut revenir.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.